Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un bonheur d'ouvrir à nouveau ce jeudi de l'ordre avec vous. Ce soir, trois intervenants. Jean-François Seitz, professeur émérite en hépato-gastro-entérologie, service d'oncologie digestive, hôpital de la Timone, président du conseil scientifique pour le dépistage du cancer colorectal, centre régional de dépistage des cancers Sud-PACA. Dans un flash info, il vient nous parler de la prévention du cancer colorectal, dépistage, qui, quand, comment, pourquoi. Caroline Bévalo, interne en psychiatrie des Hospices civils de Lyon, doctorante en neurosciences computationnelles au laboratoire Unigoc. Xavier Olessa d'Aragon, normalien agrégé de biochimie et génie biologique. Dans le cadre d'une mission ministérielle État de santé des jeunes en France, il traite à distance de nous du sujet de la soirée. Et si la santé est positive était la clé de la prévention chez les jeunes. Le prochain jeudi de l'ordre, le 13 avril, parlera d'habitat, de pollution, de santé avec Denis Charpin, après le flash info de Marc Chinchol sur la retraite. Merci à notre présidente Marie-Dominique Mettra, toujours présente, à tous les élus du CD et à notre belle équipe de communication, en ayant une pensée particulière pour Guillaume et Simon, qui ne sont pas là ce soir pour des raisons bien précises. Je les embrasse. Jean-François Seitz, c'est à vous.
Merci beaucoup. Merci à Marie-Dominique, la présidente, et l'ensemble du bureau de m'avoir cette année encore demandé de vous faire un point rapide, un flash sur le dépistage du cancer colorectal. Qui, quand, comment, pourquoi ? Alors, on va commencer par pourquoi, parce que l'enjeu est tellement fort et majeur que c'est un moteur après pour dépister. Je vous rappelle que le cancer colorectal tue chaque année plus de 17 000 Françaises et Français. Il y a un décès toutes les demi-heures, alors que la plupart de ces décès pourraient être évités. Hein, c'est ça le moteur. Et en fait, ce cancer, son problème, c'est qu'il n'est pas genré, c'est-à-dire qu'il touche à peu près autant les femmes que les hommes, en nombre de cas et en nombre de morts. Et finalement, il tue plus d'hommes que le cancer de la prostate, presque autant de femmes que le cancer du sein. Mais comme c'est réparti sur les deux sexes, ça passe inaperçu et ce n'est pas un sujet qui est bien connu du grand public. En fait, donc, la plupart de ces 17 000 morts, plus de la moitié des 43 000 nouveaux cas annuels de cancer du côlon seraient évitables en agissant d'abord sur la prévention primaire, c'est-à-dire en agissant sur notre mode de vie. Vous voyez sur cette diapositive, c'est effarant, je trouve, même pour un spécialiste comme moi, de voir que la moitié des cancers colorectaux pourraient être évitables si on améliore notre mode de vie, c'est-à-dire si on lutte contre la sédentarité, le surpoids, l'obésité, si on a une alimentation sans excès de viande ou de charcuterie, mais au contraire en consommant beaucoup de fruits et de légumes, évidemment pas ou peu d'alcool et pas de tabac. Dans l'ensemble, 40% des cancers sont évitables, vous voyez 35% des cancers du sein. Évidemment, le col utérin, si on est vacciné contre HPV, c'est 100% de réduction du risque, mais le colorectal, le mode de vie pourrait éviter 50% de ces cancers. Et le reste, on pourrait quasiment l'éradiquer par la prévention secondaire. Alors là, on rentre dans le sujet du dépistage, puisque ce test de dépistage sur les selles, le test immunologique, il dépiste aussi et surtout les lésions précancéreuses, les adénomes. Vous savez qu'il y a une séquence adénome cancer qui, en moyenne, prend 10 ans. Et bien entendu, si on dépiste ces adénomes et les adénomes avancés, c'est-à-dire les gros adénomes, les gros polypes de plus d'un centimètre, on va éviter, en les enlevant sous coloscopie, autant de cancers dans les années qui viennent. Alors, qui et quand ? Eh bien, c'est très simple, ce sont les hommes et femmes de 50 à 74 ans. Pourquoi est-ce qu'on commence à 50 ans ? Parce que seulement 5% des cas de cancer colorectal surviennent avant 50 ans. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 74 ? Alors là, c'est peut-être plus discutable, parce que les études ont été faites à l'époque, il y a 30 ans, sur cette tranche d'âge-là. Depuis, on a augmenté notre espérance de vie de 10 ans. Donc on pourrait s'intéresser, vous voyez qu'après 75 ans, les cancers du côlon ne sont pas rares parce qu'on vit volontiers au-delà de 75 ans. Donc il faudrait probablement revisiter cette borne-là du dépistage et aller jusqu'à 79. Comment ? Eh bien, c'est le test immunologique fécal, le FIT pour les anglo-saxons, qui est réalisé tous les 2 ans à partir de 50 ans. C'est le cas pour 80% des assurés, ceux qui n'ont ni symptômes inquiétants devant amener une coloscopie, ni antécédents personnels ou familiaux, les plaçant dans un groupe à haut risque, on va y revenir. Donc ce FIT est fait tous les 2 ans. Quand il est positif, dans 4% des cas, eh bien derrière, bien sûr, il faut faire une coloscopie, ce que ne font pas tous les assurés. Il n'y en a que 9 sur 10 qui font la coloscopie derrière, c'est un peu mystérieux. Et là, la coloscopie, elle est extrêmement productive, puisque une fois sur deux, elle va trouver un adénome qui va être enlevé au cours de la coloscopie, puisque maintenant, les progrès sont tels que plus aucun adénome n'est pas enlevable par coloscopie. Et puis, dans 7% des cas, on va trouver un cancer qui, dans 2/3 des cas, est un stade 0 ou 1, c'est-à-dire un in situ ou un cancer invasif mais limité, ne dépassant pas la paroi. Et là, vous savez que hors dépistage, ce n'est que 20% de stade 0 ou 1 dans la vraie vie, hein, hors dépistage. Donc, c'est vraiment un bénéfice majeur. Alors, le rôle clé du médecin traitant, bien sûr, c'est d'apprécier les niveaux de risque. Et à côté de ces 80% de cancers sporadiques, de sujets à risque moyen, il y a environ 15% de sujets à haut risque, qui sont ce qu'on peut appeler des cancers familiaux, c'est-à-dire des personnes qui ont un antécédent au premier degré direct de cancer colorectal ou d'adénome, si le cas index est survenu avant 65 ans. Donc c'est une définition très limitative, hein. Un antécédent au premier degré avant 65 ans pour le cas index. Si c'est quelqu'un d'âgé ou quelqu'un au deuxième degré, ça n'a pas d'incidence, on fait le FIT. Si on a une maladie inflammatoire de l'intestin, une rectocolite hémorragique par exemple, bien sûr on est suivi par coloscopie avec des biopsies régulières. Et puis, il y a ce petit groupe d'à peu près 5% des cancers génétiques, c'est-à-dire les syndromes de Lynch, qui représentent 3 ou 4%, et les polyposes adénomateuses familiales. Là, quand on a la mutation, c'est une fois sur deux pour les descendants, on est sûr qu'on va avoir la maladie. Donc, il y a une prise en charge très particulière avec une constatation de génétique et des chromocoloscopies qui sont faites dans les Lynch à des rythmes tous les 1 ou 2 ans. Alors, pour terminer, je vous dirais que la participation au dépistage organisé du cancer colorectal est traditionnellement assez basse en France, puisque le président de la République, d'ailleurs, en 2019, quand il a présenté le plan décennal contre le cancer, disait qu'il y a un assuré sur 3 seulement qui fait le test et il faut améliorer tout ça. Eh bien, curieusement, ça s'est plutôt redressé pendant la crise Covid. Alors, je vous avais montré les résultats sur 2020-2021. Et en 2022, on vient d'avoir les chiffres pour la région PACA. On n'a pas encore les chiffres nationaux par Santé publique France, mais l'augmentation continue. Vous voyez donc qu'en région sud PACA, où on est traditionnellement un peu en dessous des résultats, eh bien, en dessous de la moyenne nationale, qui est en bleu, vous voyez, on était à moins de 25% en 2019-2020 de participation. On est remonté à 33%, donc ça fait plus 8,5%. On est en train de rattraper notre retard sur la moyenne nationale. Donc, et ça, c'est en partie, bien sûr, c'est la communication, c'est le fait d'en parler, comme on le fait ce soir, qui est très important. Donc, vous voyez, plus 8% ces deux dernières années. En Bouches-du-Rhône, on est 8,3, on est sur la moyenne. Les Alpes-Maritimes, qui étaient très bas, sont bien remontées à 9. Et donc, on espère que pour 2023, les mesures qui ont été prises, qui ont été décidées courant 2022 vont commencer à agir. Donc il y a la commande en ligne par les assurés qui est possible quand ils ont reçu leur invitation avec le numéro de l'invitation, sinon ça ne marche pas. Et puis il y a également la remise des tests par les pharmaciens dans les officines qui vient compléter l'action des médecins traitants. Donc on espère que ça va nous permettre de produire dans quelques années des courbes comme celle-là, comme cette courbe en Californie. Vous voyez que le taux de participation au rouge est monté progressivement de 40 à 83% et la mortalité par cancer du côlon en bleu, c'est en miroir, s'est effondrée. Et donc, Améliorer la participation, vous le voyez, est essentiel. Et là, on compte sur vous tous, dans vos cabinets, pour repérer vos assurés qui n'ont pas fait le dépistage et le leur proposer. Donc, on communique, c'est ce qu'on fait en ce moment. On va communiquer dimanche, on organise un grand événement sportif et convivial et familial, parrainé par Basile Boli, une course au parc Borély, où je vous invite à venir. Il y aura beaucoup d'établissements de santé présents. Et puis nous organisons un cycle de conférences santé cette année pour la première année avec le soutien d'AMU et du Cancer au Pôle. Notamment dans le 13, il y aura une conférence le 30 mars à Aix-en-Provence et une autre à Marseille le 12 avril dans l'Amphigastro au Faro, dans les locaux d'Aix-Marseille Université. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.
Bonsoir à tous. Un grand merci pour votre invitation à présenter le rapport à vos jeudis de l'ordre. L'objet de ce soir, ça va être de vous présenter effectivement la question de la prévention chez les jeunes. Vous allez vite voir que ce terme de prévention, on va rapidement l'abandonner au fur et à mesure du rapport. Simplement pour vous expliquer, donc cette mission santé jeune, elle a été réalisée au cours de l'été 2021. Elle était coportée par Pauline Martineau et Odnia Danu, et je faisais partie de l'équipe des 10 bénévoles qui ont travaillé sur le rapport. Et Xavier?
Oui, moi, pour ma part, j'ai eu la chance de travailler au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pendant un an auprès de la conseillère santé et donc d'être sensibilisé au contact de ces thématiques. Et dans ce cadre-là, lors de la mission, j'ai été invité à y prendre part, notamment quand il s'agit d'auditionner la conseillère santé du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Du coup, pour vous expliquer l'objectif le contexte du rapport, c'est Olivier Véran qui nous a contactés suite à la prise de conscience que, après cette période du Covid, la santé des jeunes était particulièrement fragile. Et en fait, on se rendait compte que cette santé des jeunes n'était pas suffisamment ciblée par les politiques actuelles de santé publique. Donc, sa demande, c'était qu'on formule des propositions concrètes d'outils qui soient activables rapidement pour améliorer la santé des jeunes. On a donc 11 propositions détaillées pour réaliser ce changement dans le système de santé. Donc, on était cette équipe de 12 et la première chose qu'on a fait, c'est aller interviewer très largement des jeunes autour de nous, donc de Paris, mais jusqu'à la Guyane. On a essayé de faire le plus largement, d'être le plus représentatif possible avec plein de territoires investigués. On est allé faire des entretiens individuels et puis des ateliers de groupe. Et on a isolé des profils de jeunes différents, donc soit collégiens, lycéens, à un autre niveau d'études, les personnes qui étaient non en emploi, non en formation, non en travail. Et puis, on a visé tout type de catégories socio-professionnelles, en milieu rural comme en milieu urbain, en métropole comme en outre-mer. On a aussi interviewé près de 200 professionnels qui travaillaient au quotidien avec les jeunes, de métiers qui sont très diversifiés, que ce soit en France ou à l'étranger. Et la force de notre rapport, c'est le fait qu'on va rapporter les besoins et les craintes des jeunes qu'on a interviewés. La question centrale qui ressortait, c'était comment on fait pour avoir mieux, plus confiance en nous et pour se sentir mieux. Donc, vraiment, on n'est pas là dans un rapport d'experts du domaine. On est là plutôt pour ramener les remontées de terrain et les solutions qui fonctionnent déjà et qui pourraient être appliquées. La solidité, c'est qu'on a interviewé des personnes très diverses, de champs très complémentaires. Et puis, on a fait un benchmark de la littérature. Donc, on est allé voir toutes les initiatives et les dispositifs qui ont déjà été évalués scientifiquement et qui ont montré leurs preuves qu'on pourrait du coup appliquer. Donc, notre démarche, c'était vraiment de développer une santé publique qui soit participative, qui augmente le pouvoir d'agir des individus et puis qui valorise les initiatives citoyennes. Pour ce soir, ce qu'on souhaite faire, c'est de vous expliquer la nécessité de réaliser ce changement, donc d'adopter une vision positive de la santé, de vous présenter et de les partager les outils pour que chacun puisse entreprendre ce changement à son échelle. et puis enfin de vous présenter les propositions du rapport. Les outils, simplement pour les énoncer, on a la santé positive, la question des normes sociales, l'aller vers, les bénéfices immédiats ou à long terme, la rationalité cachée, le design thinking, et puis le value-based healthcare. On va commencer tout de suite avec la santé positive.
L'idée derrière cette première diapositive, c'est d'expliquer que la plupart du temps, on a une vision de la santé, alors que dans l'ensemble de la santé, elle est composée à la fois de cette vision négative qui existe, hein, qui est la peur de tomber malade et le besoin d'avoir une approche curative et centrée sur le risque. Mais il y a aussi cette vision positive de la santé et cette aspiration à se sentir mieux. Donc là, sur la diapositive, au milieu, l'idée, c'était de montrer à peu près où se situe la plupart des gens et le fait qu'on peut à tout moment tomber malade et aller moins bien, mais qu'il y a aussi cette possibilité d'aller mieux, de se sentir ce mieux-être qui est possible et qui existe. Et sur la droite, il y a un mème, donc c'est un type de dessin humoristique qui se base sur un schéma récurrent qui est d'ailleurs beaucoup utilisé par les jeunes pour communiquer et qui montre deux personnages au milieu de la même route. C'est une redite du verre à moitié vide à moitié plein. Et en prenant l'exemple de la prévention centrée sur la question de la nutrition et de l'activité physique, il y a cette idée que l'essentiel de la prévention à l'heure actuelle et de la vision des choses se centre sur le risque. Ne mangez pas trop gras, sucré et salé, sinon vos artères se boucheront. Et on est uniquement dans l'injonction, dans le faire peur et dans la vision négative de la santé et dans la peur de tomber malade. Alors qu'il existe aussi cette vision qui consiste à dire mangez mieux, faites du sport et vous vous sentirez mieux, ce qui vise aux mêmes actions, aux mêmes changements de comportement et qui se base sur la même réalité, mais qui est là une approche beaucoup plus positive et qui une aspiration à un mieux-être, en fait, qui est beaucoup plus efficace chez les jeunes en tout cas, que l'approche qui est employée la plupart du temps par l'ensemble des gens. Ensuite, là, cette diapositive montre les moyens qui sont alloués aux curatifs et aux préventifs. La France, sur ce plan-là, est à peu près dans la moyenne de l'OCDE, dans la moyenne basse, mais on voit que la proportion allouée aux préventifs est extrêmement faible, puisque dans la moyenne de l'OCDE, on est à 2,8% des dépenses de santé. Et c'est très important, pas des dépenses de soins, des dépenses de santé, il n'y a que 2,8% qui sont utilisés dans la prévention. Et donc, on a vraiment une vision centrée sur le curatif, pas qu'en France. C'est quelque chose de très répandu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, dans ces 2,8%, on a à peu près la moitié qui est sur le suivi des personnes qui sont en bonne santé et on a seulement un tiers qui est sur l'information, l'éducation, la prévention et donc le fait de donner aux gens des outils pour mieux aborder leur santé et fonctionner dans une démarche plus optimiste. Là, on voit la répartition des dépenses de santé par tranche d'âge et on voit que, en fait, c'est encore une fois les dépenses de santé et pas les dépenses de soins. On voit qu'en fait, les dépenses sont concentrées sur la partie, sur la fin de la vie. Là, on voit une courbe qui compare entre 1992 et 2008 et cette augmentation sur la fin de la vie, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on dispose de plus de moyens pour mieux accompagner les personnes quand elles en ont le plus besoin. Mais l'aspect plus négatif, c'est que ce très faible niveau de dépenses dans les premiers temps de la vie, il reflète beaucoup la très faible part de prévention et d'une approche non pas centrée sur le curatif, mais justement sur à la fois la prévention et sur le fait de donner aux gens des outils différents pour mieux s'emparer de leur santé, mieux aborder de leur santé, qui ont des effets à plus long terme et qui ont des effets de levier très importants, puisque plus on intervient tôt dans la vie et avec ce type d'intervention, plus on a des effets, mais on voit que c'est très peu le cas.
La question de cette prévention qui est vraiment centrée sur la maladie, le médicament, l'hôpital, elle est particulièrement peu efficace chez les jeunes. Les messages qu'on a pu utiliser, c'était la peur, la question du risque. Et vraiment, les jeunes ont pu nous dire qu'ils n'étaient pas du tout sensibles à ce discours et pas touchés par les campagnes de santé publique actuelles. Et parmi les jeunes qu'on a interviewés, certains pouvaient nous dire, pouvaient définir la santé comme l'absence de maladie, donc se sentir absolument pas concerné. Et puis d'autres pouvaient quand même nous dire que la santé, c'était un état de bien-être comme défini dans l'OMS. Mais dans ce cas, ça leur paraissait quelque chose d'assez vague et puis qui était peu présent, voire absence de leur quotidien. Mais pourtant, c'est vraiment ce concept de santé positive qui peut les réconcilier avec la santé. Mais simplement, c'est à définir autrement, plus avec leur vocabulaire et avec des choses qui sont compatibles avec leur quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de leur faire sentir que la santé, en fait, ça peut apporter des bénéfices quasiment immédiats, ça peut être associé au plaisir de vivre et vraiment au sentiment d'appartenance. Et là, encore une fois, on peut toujours utiliser la définition de l'OMS de la santé, mais simplement en se focalisant sur deux objectifs. Le fait de développer le bien-être du jeune à titre individuel et puis de développer son sentiment d'inclusion dans la société. Et nous, la définition de la santé qu'on a beaucoup utilisée avec les jeunes, en fait, c'était le terme de bien-être qui passait le mieux en général. Et on leur disait, le bien-être ou la santé, en fait, c'est comment augmenter son énergie et son optimisme pour profiter de la vie chaque jour et réaliser tous ses projets. Pour vous donner un petit peu un exemple, des choses qui fonctionnent pas très bien, ça peut être les images sur les paquets de cigarettes, donc les images des risques encourus. Et là, il y a deux choses qui ne fonctionnent pas bien sur les jeunes. C'est déjà que c'est quelque chose qui est très lointain, donc ils ont beaucoup de mal à se projeter dans ce risque-là. Et puis deuxièmement, on leur parle d'un risque et on l'abordera plus tard, mais c'est presque du challenge pour eux. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui va être aversif. À l'inverse, il y a eu un festival, le festival Facette, qui était un festival de santé mentale, qui était vraiment dans l'idée d'une santé positive, qui a très bien marché chez les jeunes, parce que l'objectif, c'était à ce moment-là de se faire plaisir, parce qu'il y avait de la musique, il y avait plein d'activités, en même temps d'apprendre des choses sur leur santé, et puis d'avoir une diversité des façons d'être en bonne santé qui étaient représentées. Donc ça, c'était une de nos propositions très fortes, de se dire, en fait, la santé, c'est quelque chose qu'on veut célébrer. Donc on veut vraiment multiplier les festivals à impact avec cette thématique de santé positive. Pour ça, il y a donc des actions locales comme celles qu'on vient d'évoquer. Et puis, on voulait utiliser la visibilité, la puissance des Jeux Olympiques en 2024 pour vraiment mettre en avant cette question de la santé. Pourquoi pas interviewer du coup les sportifs pour leur demander comment ils font quand il y a un moment qui est plus challengeant pour continuer à garder le moral, comment ils font pour réguler leur sommeil dans ces moments de compétition, comment ils font aussi pour travailler en équipe. L'autre chose qu'on proposait, c'était d'avoir des budgets municipaux pour que les jeunes puissent vraiment participer à l'organisation d'événements qui vont avoir un impact positif sur la santé. Mais là, on vient d'aborder donc, cette question de santé positive. Tout de suite, il y a une limite qui est importante à pointer. C'est celle du fait qu'elle peut paraître normative. On peut avoir l'impression que ce concept de santé positive, c'est un modèle qu'il faut suivre et qui est imposé. Et on a tout de suite deux biais qui viennent. Le premier, c'est celui que finalement, quand on donne ce modèle d'une norme de santé, en général, elle émane plutôt des plus âgés. Donc, les jeunes ne s'identifient absolument pas à cette norme-là. Les plus âgés, c'est le groupe duquel ils veulent s'émanciper. Eux, ils sont beaucoup plus sensibles aux messages qui sont portés par leur groupe. Pour des questions développementales, pour des questions biologiques où il y a toutes leurs fonctions sociales, les fonctions exécutives et les émotions qui sont en train de se développer. Et puis, du point de vue social aussi, eux, ils sont vraiment coincés avec une classe ou un groupe d'âge. Et finalement, c'est la norme qui est présente autour d'eux qui va être très importante parce qu'ils ont besoin de s'intégrer. De l'autre côté, l'autre biais, même si on arrive à faire des normes qui émanent des jeunes directement, le problème, c'est quand elles ne sont pas suffisamment représentatives, qu'il y a un seul modèle qui est présenté, un seul modèle de comportement sain. Dans ce cas, il y a certains jeunes qui vont avoir l'impression que la marche à franchir, elle est beaucoup trop grande. Et donc, ça va créer chez eux des sentiments d'impuissance, de colère, d'anxiété. Et la réaction va être plutôt à l'inverse, d'accroître la distance avec cette norme et puis de revendiquer une alternative pour ne plus souffrir de ne pas être dans cette norme-là. Mais pourtant, ces écueils-là, en fait, ce n'est pas du tout des choses qui sont insurmontables. En fait, le concept de santé positive, il est vraiment à imaginer au pluriel. C'est la question de se dire quelles sont toutes les façons positives de vivre sa santé pour les jeunes, de s'épanouir, de prendre soin de soi. Et l'objectif, c'est à chaque fois d'offrir une multitude de modèles d'identification et une vision qui est vraiment non normée, intrinsèquement inclusive. Pour donner des exemples, De choses qui n'ont pas bien fonctionné par le passé. Il y avait la question de la campagne SAM donc contre l'alcoolisme au volant. Et la difficulté de ces campagnes-là, c'est qu'en fait, elles n'émanaient pas du groupe de pairs. Donc, c'est les plus âgés qui imposaient leurs normes. De l'autre côté, c'est sur les réseaux sociaux comme Instagram, où là, on a des normes qui sont absolument non représentatives de la diversité des choses qui sont saines. De l'autre côté, ce qui fonctionne, c'est les profils Instagram avant-après ou alors les profils sans filtre où il va y avoir énormément du coup, de diversité qu'on observe. Et puis la campagne Schizodyssée qui était lancée par Positive Minders, qui est une asso qui milite pour le bien-être avec un trouble psychique. Et cette campagne, elle montrait du coup des personnes qui souffraient de schizophrénie, mais qui étaient en bonne santé. Et donc, ils montraient leur façon d'être en bonne santé. On avait vraiment une diversité de profils. Donc, ce qu'on propose pour agir là-dessus, c'est vraiment toujours de co-construire nos campagnes de santé pour que les façons de prendre soin de sa santé émergent des jeunes. C'est le design thinking dont on reparlera après. Et puis, toujours de penser à décliner les normes à l'échelle locale et pour l'ensemble des groupes d'identification. C'est ce qu'on a vraiment fait en pensant à chaque fois à tous ces profils qu'on avait. Et puis de mener des actions de lutte contre les normes qui seraient trop restrictives. Notamment, on proposait de rendre obligatoire le fait de signaler quand les photos elles ont été retouchées ou quand il y a un fil qui a été appliqué par les influenceurs. Et puis, pour contrôler un petit peu mieux le contenu qu'il peut y avoir sur la santé sur les influenceurs et sur Internet de façon générale, en général, propose donc des contenus qui sont très pertinents pour être diffusés, mais qui ne sont pas toujours validés. Donc, ce serait de proposer une charte des créateurs de boosters de santé mentale pour pouvoir faciliter le repérage des contenus qui sont scientifiquement valides.
Du coup, dans ce contexte-là, il y a cette idée de cette stratégie d'aller vers, puisque un des problèmes majeurs auxquels les jeunes sont confrontés, c'est que le bassin de vie des jeunes, là où ils évoluent et là où ils perçoivent leur envie de mieux être et d'évoluer, est éloignée des structures de santé qui leur semblent la plupart du temps éloignées sur différents plans, à la fois sur un plan physique et à la fois peu accessible, peu young-friendly et surtout peu perçues comme des structures où on a envie d'aller. Pour beaucoup, l'hôpital, c'est perçu comme c'est l'illustration sur l'image, c'est quelque chose qui ne donne pas envie, c'est quelque chose où on va quand on s'est cassé la jambe ou quand on a vraiment quelque chose de grave, mais ce n'est pas un endroit où on va pour aller mieux, ce n'est pas un endroit où on a envie d'aller, et surtout, ce n'est pas un endroit qu'on associe à des perspectives positives et enthousiasmantes. C'est un endroit qui a ce stigma-là. Du coup, alors là, c'est juste une petite digression, un petit exemple pour faire des liens avec quelques idées. Dans la théorie chimique, pour qu'il puisse y avoir une réaction chimique qui se produise, et là, en l'occurrence, la réaction chimique, ce serait de réussir à faire adopter des comportements, à changer les comportements et la perception de la santé auprès des jeunes et réussir à leur faire passer un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait une rencontre, donc il faut que ce soit les différents réactifs soient présents dans le même lieu. Il faut qu'il y ait assez d'énergie et il faut que les réactifs interviennent avec la bonne orientation. Et du coup, il y a cette idée que non seulement il faut aller à la rencontre des jeunes sur le plan physique, mais il faut aussi aller à leur rencontre sur le plan, il faut parler la même langue qu'eux, il faut employer, c'est ce qu'on va voir ensuite, mais il faut pouvoir créer les conditions optimales de cette rencontre, à la fois en les rencontrant sur un plan physique et à la fois en les rencontrant sur un plan culturel, énergétique, en créant des conditions qui soient favorables au fait qu'il puisse y avoir un échange pertinent, et là, en l'occurrence, une réaction chimique vertueuse. L'autre image, c'est une illustration de Jacques Monod, prix Nobel de physiologie et médecine en 1965 pour ses travaux notamment en biologie moléculaire, qui disait que la nature est un bricoleur qui réutilise ce qui existe déjà, notamment dans la construction du génome. Et là, l'idée, ça fait le lien avec ça, l'idée, c'est de réutiliser ce qui existe déjà dans la stratégie d'aller vers et de réutiliser les différents éléments que les jeunes utilisent déjà. Donc, on va le voir, à la fois les intervenants, à la fois les outils, à la fois les lieux. Et donc de s'appuyer sur ce qui existe déjà et sur ce qui est déjà au contact des jeunes. Donc la sélection des intervenants et des lieux, elle se fait via une approche qui est centrée sur l'utilisateur en se posant la question, quelle est la journée type d'un jeune, quels sont les différents endroits qu'il fréquente au cours de la journée. Là, on a l'exemple de le matin au réveil, le midi dans un restaurant scolaire par exemple, et le soir dans le club de rugby avec ses camarades, mais aussi ses entraîneurs, le personnel qui va être présent à l'école. Et donc l'idée, c'est via ça, de voir quels sont les différents intervenants qui ont affaire aux jeunes au cours de la journée, surtout ceux sur lesquels ils s'appuient déjà. L'idée, c'est de pas forcément créer de nouveaux intervenants, mais de sensibiliser les intervenants auxquels le jeune est, avec lequel le jeune est déjà en contact pour avoir quelque chose qui soit plus pertinent et plus efficace. Ensuite, il y a cette idée donc, d'aller là où les jeunes sont déjà, de s'appuyer sur les intervenants que les jeunes sollicitent déjà et d'exploiter les outils que les jeunes utilisent déjà. Et dans cette idée de s'appuyer sur les intervenants, un exemple qui semblait pertinent, c'était l'idée de premier secours en santé mentale. Tout le monde connaît les premiers secours, les gestes qui sauvent, et c'est quelque chose qui a sauvé énormément de vies, et il y a eu énormément de démarches et d'initiatives là-dessus qui ont abouti, entre autres, alors ce n'est pas complètement lié, mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont été sensibilisés aux premiers réflexes qu'il faut avoir quand on voit quelqu'un qui fait un AVC, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, tout un tas de réflexes comme ça, le déploiement d'un DAE dans la plupart des espaces publics, parce qu'il y a eu cette idée que si plus de personnes étaient sensibilisées aux conduites à tenir dans ces situations-là, ça pourrait sauver beaucoup de vies. Et il y a donc cette idée qui a émergé de premier secours en santé mentale. Donc, il y a tout un tas de contenu qui a été développé. Il y a des formateurs accrédités. Il y en a maintenant en France. Ça se déploie petit à petit. Et cette idée qu'en formant un certain nombre de personnes à ces premiers secours en santé mentale, ils vont être capables de repérer des jeunes qui sont en situation de détresse, d'avoir les premiers réflexes et ensuite d'être capables de les orienter. Et donc, en étant capable de cibler les intervenants qui sont en contact des jeunes et potentiellement, c'est juste un exemple, hein, mais de leur offrir ce type de formation, et ben, ça va permettre, en s'appuyant sur les intervenants qui existent déjà, de pouvoir avoir une conduite qui parfois, de premier contact, de premier recours, qui va parfois être particulièrement pertinente et efficace. Donc, dans la stratégie d'aller vers, dans l'idée de ce qui ne fonctionne pas, il y a un certain nombre d'exemples, mais il y a l'idée du bilan IST, parce qu'il y avait, à une certaine époque, en tout cas, le besoin de faire la demande aux médecins généralistes, donc il y avait une certaine barrière, un certain délai, donc une distance, et à la fois une distance, entre guillemets, temporelle, mais aussi une distance dans le fait qu'il y avait la peur du regard de l'autre et l'idée que bah, si je fais ce bilan-là, qu'est-ce que les autres le savent, qu'est-ce qu'ils vont en penser si je découvre que j'ai une maladie, qu'est-ce que le stigma associé à ce genre de pathologie et à ce genre de choses faisait qu'il y avait une vraie distance à tous les niveaux qui se créaient. Ce qui fonctionnait mieux, c'était la pilule du lendemain à la pharmacie et le bilan gratuit fait en laboratoire, puisque à la fois, il y avait cette idée de délai court, puisqu'on peut y accéder immédiatement, et cette idée d'absence de stigma et donc d'une vision pas du tout biaisée par rapport à ça. Et donc, ce qui est proposé, c'est ce qu'on propose, c'est l'idée d'intervenir dans les lieux qui sont fréquentés par les jeunes, avec les outils déjà utilisés par les jeunes et par les intervenants déjà sollicités par les jeunes. Et juste à titre d'exemple, l'image là, c'est le championnat américain de football américain qui est extrêmement suivi. Parmi les 100 audiences, premières audiences de télévisées en 2022, 75 étaient des matchs de football américain. Ils ont décidé de se mettre à la sensibilisation au cancer du sein en dédiant tout un mois, en faisant des uniformes dédiés, tout ce genre de choses. Et donc, du coup, l'idée, c'est comme les gens regardent déjà ce programme, on va s'appuyer sur ça pour faire passer tout un tas de messages et ça a été relativement efficace.
Dans la question des lieux, du coup, il y a deux lieux qu'on voudrait favoriser. La première s'inspire des Headspace qui sont en Australie, quelque chose qui serait un petit peu comme l'équivalent d'un centre médico-psychologique, mais en fait en beaucoup plus branché, déstigmatisé. Globalement, c'est un endroit où on offre une connexion Internet, où c'est un lieu convivial, et en même temps, on peut aller s'informer sur sa santé. Ça a vraiment modifié complètement l'approche de la détection et de la prise en charge des troubles psychiques en Australie, en raccourcissant les délais de plusieurs années de détection de ces pathologies-là. L'autre lieu qu'on voudrait mettre en avant, c'est l'école. C'est là où les enfants et les jeunes passent le plus clair de leur temps, mais pourtant, elle ne permet pas de prendre soin de sa santé. Donc, à l'école, ce qu'on propose de faire, c'est la première chose, adapter les rythmes pour que ce soit des choses qui sont beaucoup plus compatibles avec les rythmes des enfants et des adolescents. Donc, décaler un petit peu plus tard le début des journées pour les adolescents, ce qui correspond à leur rythme chronobiologique. Et puis, faire des journées qui soient plus courtes, avec des vacances scolaires qui seraient, notamment les grandes vacances, peut-être réduites aussi, pour pouvoir suivre le rythme d'un enfant. On voudrait mettre en place des événements à l'école, vraiment ouvrir l'école au monde de la santé. Et par exemple, faire une journée pyjama pour sensibiliser à l'importance du sommeil et à son pouvoir sur les apprentissages. développer les compétences psychosociales. On va y revenir un petit peu après, mais la question de commencer à apprendre, à prendre soin de soi à l'école, et puis de l'ouvrir plus largement aux professionnels de santé. Pour revenir à la question des lieux, du coup, de ces headspace, on voulait s'en inspirer pour créer ces dispositifs d'aller vers pour vraiment détecter, sensibiliser les jeunes à leur bien-être. Ce ne serait pas uniquement sur la santé mentale, ce serait des health space qui seraient et en présentiel et en digital pour favoriser l'accès. Et globalement, ce seraient des endroits où on pourrait avoir des conseils professionnels, un lieu convivial, et puis on a des éléments sur le prendre soin de soi. Et ces lieux, ce seraient des lieux qui seraient physiques, mais ça pourrait être aussi des camions qui se déplaceraient en ruralité pour pouvoir vraiment faire que l'ensemble du territoire en bénéficie. Et les personnes qui s'en occupent seraient formées, bien sûr, à l'écoute sans jugement et puis à la détection des signes précoces de mal-être. Si on s'intéresse ensuite aux outils qu'on pourrait utiliser, l'objectif de tous ces outils, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire toutes les connaissances qui permettent à chaque jeune de se forger un jugement sur sa santé et de pouvoir décider comment il souhaite prendre soin de lui. Les choses qui existent déjà et qui sont bien investies, c'est le carnet de santé. Le carnet de santé, il est surtout bien investi par les parents. Et donc, ce qu'on propose, c'est de pouvoir améliorer son contenu pour l'élargir à des conseils de santé mentale et puis pour l'élargir aussi à l'accompagnement d'un adolescent. Les autres choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur Internet, mais on a du mal à savoir quelle est l'information qui est valide, qu'on peut utiliser. Et puis, d'un autre côté, ça c'est pour les contenus qui sont disparates sur YouTube, avec les influenceurs. Et de l'autre côté, finalement, les portails d'accès officiels sont finalement peu attractifs pour les jeunes. Donc, ce serait de co-construire cette adaptation-là pour que les jeunes puissent vraiment utiliser ce portail Santé sur Amélie comme une ressource pour eux. Le dernier outil, ce serait le pass bien-être. On va le développer après. C'est un ensemble d'outils pour aider les jeunes à prendre soin d'eux. Mais au-delà de la stratégie d'aller vers, on va vous parler du coup de la différence entre les bénéfices immédiats et les bénéfices à long terme. Ça va être juste après, je suis désolée. Du coup, c'était juste pour revenir sur les outils et pour dire que dans les outils, il y avait cette question de pouvoir s'emparer de l'école, de pouvoir avoir des cours du coup à l'école de compétences psychosociales. Et puis la question de la parentalité, on l'a évoquée.
Ensuite, il y a la question de l'échelle, la question de l'échelle pertinente. C'est une question qui revient beaucoup. C'est vrai que, notamment en France, puisque entre des choses qui doivent qui ont vocation à être traitées parfois à l'échelle européenne, voire même continentale, et des choses qui ont vocation à être traitées à l'échelle très locale, c'est vrai que parfois on s'y perd un petit peu. Et l'idée, c'est que on se rend compte en regardant cette diapositive, il y a cette idée que il y a cette idée que le comment dire il y a l'échelle locale à l'échelle locale il y a énormément d'enjeux vis-à-vis de la prévention. Il y a cette idée que on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites dans un certain nombre de pays, notamment en Italie, en Allemagne, au Canada, où c'est les collectivités locales qui disposent non seulement d'un certain nombre de moyens, mais d'une certaine autonomie pour mettre en place des politiques de prévention qui sont adaptées à leur public au niveau local, puisqu'on considère que comme elles connaissent bien leur bassin de population, c'est quelque chose qui est particulièrement adapté. En France, la loi de décentralisation en 1900, dans les années 80, a donné une clause de compétence en termes de prévention. Cette clause est devenue optionnelle en 2004. Du coup, aujourd'hui, les choses sont plus forcément extrêmement claires, mais en tout cas, la DREES et la Cour des comptes voient dans les collectivités locales un vrai levier de développement des actions de prévention. Donc, c'est quelque chose qui a vocation à se développer parce qu'il y a un vrai enjeu là-dessus et qu'on voit que dans un certain nombre de pays, qui sont notamment clairement pas les plus mauvais en termes de prévention, il y a vraiment cette idée d'agir à l'échelle locale en termes de prévention. Ensuite, il y a la question des bénéfices immédiats ou à long terme. C'est quelque chose qui fait le lien avec ce dont on parlait sur la vision de la santé, puisque comme on a tendance à avoir beaucoup une vision négative de la santé, cette vision négative est basée sur le risque, et donc elle est basée sur le présupposé implicite que les personnes à qui on s'adresse admettent l'existence du risque et le considèrent et vont en avoir peur. Et c'est dans un certain nombre de cas non seulement quelque chose qui n'est pas toujours vrai, mais il y a aussi le fait que ce risque, quand bien même il est admis et il est fait entre guillemets peur, il va rentrer en tension avec la question des bénéfices. Il y a cette idée que les récompenses et les punitions sont perçues comme quelque chose de lointain, comme quelque chose mais non seulement de lointain, mais aussi d'incertain, et donc quelque chose qui ne va pas vraiment avoir un potentiel de levier important. Chez les adolescents notamment, la consommation d'alcool et de tabac, c'est associé à une récompense immédiate qui est l'intégration dans un groupe social. Ça répond en retour à une crainte, à un risque, à une peur qui est immédiate, qui est celle d'être rejeté, qui est celle d'être stigmatisé, qui est celle d'être isolé. Et à l'inverse, l'autre risque, le risque lointain, le risque d'une maladie, il est non seulement perçu comme lointain et comme incertain. Et donc, on va avoir une mise en balance, une vraie tension qui va la plupart du temps être en faveur du bénéfice immédiat entre soit répondre à une peur qui est très forte et qui est très immédiate, qui est de ne pas réussir à s'intégrer, soit répondre à une peur extrêmement lointaine d'une maladie potentielle. Et cette tension, la plupart du temps, va faire que ces injonctions-là vont pas bien fonctionner. Pour illustrer ça, il y a le test du marshmallow, qui est une célèbre expérience de psychologie cognitive qui a été menée à Stanford en 1972. Alors, pour simplifier les choses, on a pris un certain nombre de jeunes enfants, on les a installés dans une pièce, on leur a expliqué le test, on a vérifié qu'ils comprenaient bien, on les a laissés seuls avec un marshmallow, on leur a expliqué que s'ils n'y touchaient pas pendant 15 minutes, on leur promettait un deuxième. Et donc, on les a laissés seuls dans la pièce et ensuite on est revenu. Et s'ils ne l'avaient pas mangé, on leur donnait un deuxième, et sinon, ils n'en avaient pas d'autre. Et alors, on a corrigé un certain nombre de biais, pas tous, mais notamment, les enfants comprenaient bien, ils aimaient les marshmallows, enfin voilà, il n'y avait pas de biais à ce niveau-là. Mais ça a été extrêmement instructif sur le pouvoir prédictif d'un certain nombre de choses, notamment le fait que ceux qui avaient le plus de mal à se contrôler, donc du coup, ceux qui mangeaient le marshmallow, étaient ceux qui, par la suite, s'avéraient être les plus à risque en termes d'IMC, en termes d'un certain nombre d'autres pathologies, et donc les plus vulnérables. Et donc, en fait, il y a un effet d'accumulation et une double peine, une synergie négative entre le fait que ceux qui sont les plus vulnérables et donc dont on aurait le plus d'intérêt, ceux qu'il faut toucher via la prévention, sont ceux qui sont les plus difficiles à convaincre, parce que ceux qui sont les plus à même de ne pas réussir à pas réussir à se contrôler, et peut-être un terme un petit peu fort, mais en tout cas de céder aux bénéfices à court terme. Il y a un certain nombre de causes à ça, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a l'idée que pour certains, la promesse d'une récompense future génère de la frustration de ne pas l'avoir tout de suite, qui est parfois, dans certains cas, alors c'est des enfants, mais une obsession, et donc, en fait, dans certains cas, cette promesse future et le fait de projeter dans le futur a un effet contre-productif. Et aussi, dans d'autres cas, ce qui est très intéressant, c'est la question de confiance. On en parlait, la question d'incertitude. Et le fait qu'il y a un certain nombre d'enfants qui, soit n'ont pas confiance dans l'examinateur, c'est-à-dire que quand l'examinateur dit qu'il y aura un deuxième marshmallow, ils ne le croient pas, soit ils ont un tel rapport au matériel qu'en fait, ils ont tendance à dire un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et donc, si j'ai un marshmallow, je le mange, je ne vais pas prendre le risque de on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, ça explique pourquoi est-ce qu'un certain nombre de campagnes de prévention et de messages qui sont basés sur le risque et un bénéfice à long terme ont un certain mal à fonctionner. Et donc, il y a cette idée comme levier d'intervention de créer ce qu'on appelle un effet checkpoint. Et donc, pour atteindre un objectif à long terme, atteindre cet objectif via un certain nombre d'objectifs à court terme. Pour faire un parallèle avec ce qu'on fait parfois en mathématiques, ou pour approximer une distance très longue, on fait plein de petits points au fur et à mesure. Et donc, l'idée, c'est de à la fois réduire le, entre guillemets, temps sans récompense, mais aussi d'ajouter des récompenses immédiates, matérielles et sociales, et surtout d'ajouter ces récompenses dans un axe de santé positive. C'est-à-dire que, par exemple, en bas, on voit pour prévenir le risque cardiovasculaire, d'avoir ces petites récompenses à court terme, ces petits objectifs qui sont avoir plus d'énergie, se sentir en forme, dans le cas des troubles psy, mieux se concentrer, atteindre ces objectifs. Et donc, pour in fine atteindre un objectif de prévention à long terme, avoir plein de petits objectifs, plein de petites récompenses à court terme qui sont en plus avec un axe très positif. Parce que très clairement, c'est assez instinctif, mais si on dit à un enfant chaque jour, par exemple, il faut célébrer de ne pas s'être fait renverser par une voiture, bah, ça ne va pas très bien fonctionner. Et donc, c'est important que ces exemples et ces petites récompenses aient une valence positive. Et donc, il y a cette idée du pass culture, de créer un pass culture parmi les propositions fortes pour permettre à tous les jeunes d'accéder à un certain nombre de services.
Passe bien-être
Passe
sur
bien-être. J'ai
Sur
loupé le
l'image
pass
du
bien-être.
passe qui chiotte.
D'ailleurs, Caroline va peut-être dire un petit mot sur le passe bien-être, mais cette idée, c'est donc d'avoir un certain nombre de que chaque jeune reçoive ce passe-là et d'avoir accès à un certain nombre d'éléments qui renforcent cet aspect d'expérience positive liée à la santé à relativement court terme. Je vais peut-être ajouter un mot.
On le détaillera plus tard, peut-être, si vous avez des questions. Le principe d'après et l'outil d'après qu'on a utilisé, c'est celui de la rationalité cachée. Au-delà de comprendre, ok, donc les jeunes sont dans cette question de l'immédiateté par moment, mais au-delà de ça, il peut y avoir surtout des comportements comme des prises de risque, les grossesses précoces, qui nous paraissent extérieurement comme irrationnelles. Et actuellement, ça nous paraît irrationnel parce qu'il y a des conséquences négatives. Aujourd'hui, les campagnes de santé publique, elles visent principalement ces conséquences négatives. Mais ces comportements, en fait, ils ont une rationalité parce qu'ils jouent une fonction pour le jeune. Et ça, c'est tout le modèle de la rationalité cachée, c'est de partir vraiment du principe que le comportement a une bonne raison d'être et il faut la comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet délétère du comportement et qu'il ne faut pas agir là-dessus, mais simplement que pour modifier le comportement, il faudra vraiment respecter l'enjeu du comportement. Et donc, permettre aux jeunes de répondre à cet enjeu tout en diminuant les conséquences négatives. Les principaux défis évolutifs pour les 12-25, c'est de réussir leur transition entre l'adolescence et l'âge adulte, donc de devenir autonome, indépendant. C'est le moment où ils découvrent les relations amoureuses et sexuelles. Ils choisissent leur modèle de vie, leur éthique de vie, leur parcours scolaire et professionnel. Et puis, ils cherchent leur place dans le monde de l'emploi, dans la société. Et en fait, c'est en essayant de répondre à tous ces enjeux qu'ils vont essayer de prendre des risques, par exemple, pour tenter d'accéder à un meilleur statut social ou à des partenaires qui ont l'air socialement plus désirables. Et on a tous les comportements délétères, donc avec compétition, agressivité, harcèlement, hyper-investissement de l'image de soi, une grande sensibilité de l'évaluation sociale et puis parfois de l'adhésion à des groupes qui ont une mauvaise influence pour eux. Comment on peut agir là-dessus ? Si on prend le premier exemple de la prise de risque, c'est vraiment cette prise de risque pour augmenter leur statut social. Donc, plus ça paraît risqué, plus ça paraît récompensant. Et finalement, la question, c'est de montrer qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont assez forts pour prendre le leadership au sein d'un groupe. Les actions qu'on peut faire, c'est des actions qui ciblent l'amélioration du statut social et en même temps diminuer les comportements à risque. Un exemple extrême qui était réalisé aux États-Unis, qui a très bien marché, c'était en fait de proposer de raccompagner les jeunes en limousine en boîte de nuit pour leur éviter de conduire en état d'ivresse. Pour la question des comportements antisociaux, ce qu'il y a à bien comprendre, c'est que tout ce qui est comportements prosociaux et antisociaux, en fait, c'est deux stratégies qui vont permettre de mieux contrôler les ressources de l'environnement. Et c'est l'environnement qui va favoriser un type ou l'autre de comportement. Donc, l'objectif, ça va être de modifier la balance ou bénéfice pour les comportements antisociaux, pour avoir davantage de comportements prosociaux. Comme ça, il y a une école qui a fait un système de récompense systématique de valorisation de tous les comportements prosociaux et qui a pu notablement diminuer les cas de harcèlement. Le dernier exemple, c'est celui des réactions conditionnées aux événements stressants. Des jeunes qui vont être placés dans un environnement qui est difficile et imprédictible, ils vont se montrer anxieux. Et ils vont favoriser des récompenses à court terme, comme on l'évoquait précédemment. Et à l'extrême, ça peut amener aux questions d'addiction, à l'arrêt précoce des études, aux grossesses précoces. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en général, quand les conditions de vie s'améliorent, ces comportements-là, qui sont délétères, ils peuvent persister. Donc le levier pour agir là-dessus, c'est en fait, en parallèle de l'amélioration des conditions de vie, vraiment mener un travail pour changer la perception de l'environnement et faire ressortir tous les aspects compréhensibles, stables et prédictibles. Donc, c'est vraiment mettre le jeune en confiance, l'entraîner sur ses compétences psychosociales et sur la gestion des émotions pour pouvoir agir sur tous ces comportements délétères. L'avant-dernier outil qu'on a utilisé, c'était celui de design thinking. Aujourd'hui, les designers, c'est vraiment des acteurs de la transformation dans beaucoup de champs. Et leur méthode a été notre méthode, en fait, pour réaliser ce rapport. Ils travaillent toujours en identifiant les besoins, les problématiques d'une population. Ce qu'ils vont faire, c'est écouter, essayer de vivre avec les personnes pour vraiment comprendre leurs besoins au plus près, les définir. Ensuite, il y a une phase où on va imaginer, prototyper des solutions. À chaque fois, c'est des solutions qui sont co-construites avec les personnes qui vont utiliser ces solutions-là. Et puis, il y a une phase où on teste, on récolte le feedback, et puis on voit si ça correspond et si ça comble effectivement le besoin.
Ensuite, il y a cette idée, pour pouvoir être capable dans cette démarche à la fois de s'adapter et de se mettre à la place. Sur la question de la littératie en santé qui a été évoquée sous un autre angle cette fois, il y a cette idée des attentes sur Internet liées à la santé en fonction de l'âge auprès des jeunes. C'est le fruit de plusieurs études, mais notamment un grand sondage qui a été fait par IFOP en 2019, je crois. Mais il y a aussi d'autres études et d'autres sondages qui ont été faits en France, je précise. Et en fait, on se rend compte que les différents… Alors, c'est des groupes qui sont relativement arbitraires. On peut discuter sur les frontières, mais l'idée, pour schématiser, c'est qu'en fait, les jeunes, les très jeunes, les entre 8 et 12 ans, leur attente principale, c'est qu'on leur fasse confiance. C'est qu'on les traite comme des adultes. Ils ont envie de voir aborder les sujets sensibles et pas simplement pour une forme de… parce que ça les amuse ou pour jouer, mais parce qu'ils ont envie qu'on les prenne au sérieux, qu'on leur montre qu'on les pense capables de discuter de sujets difficiles d'adultes, entre guillemets, comme la sexualité, la drogue ou l'alcool. Et donc, c'est là leur attente principale. Les 12-18 ans, pour leur part, leur attente principale, c'est d'avoir des réponses à des problèmes très précis. Notamment, c'est des problèmes qui sont liés à des maladies graves, comme le cancer. Ça arrive à beaucoup de jeunes d'entendre leurs parents ou au téléphone ou au repas de famille ou dans d'autres circonstances ou même parfois à la télévision ou dans des séries, entendre parler de personnes atteintes du cancer ou qui ont fait une crise cardiaque. Ils ont envie de savoir ce que c'est, ils ont envie de savoir si c'est grave, ils ont envie de savoir comment ça va évoluer, ou bien des questions qui les concernent, qui sont liées à la sexualité, l'alcool ou la drogue. Pour citer deux exemples très rapidement, il y a cette idée qu'une étude a montré qu'un jeune qui posait une question fermée sur Internet sur un sujet lié à la santé avait quelque chose comme 80% de chances de voir cette question confirmée. C'est-à-dire que, pour donner un exemple précis, un jeune qui va sur Internet et qui tape, par exemple, « j'ai mal à la côte, est-ce que je vais mourir ?», bah, il a 80% de chances de sortir de sa recherche en ayant l'impression que oui. Et donc, ça crée énormément de problèmes et énormément de biais. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Enfin, les 18-24 ans, leur problématique principale, c'est de parvenir à maîtriser les outils administratifs, entre guillemets. Ils entrent dans la vie active. C'est notamment un sujet qui était revenu puisque j'avais eu l'occasion de travailler avec Parcoursup. Et en fait, à Parcoursup, il y a beaucoup de jeunes qui, quand ils deviennent étudiants, tout d'un coup, ils doivent demander une bourse, ils doivent trouver un logement, ils doivent prendre une mutuelle, ils doivent eux-mêmes s'occuper de leur propre santé. Et du coup, c'est quelque chose qui leur tombe dessus, auquel ils n'ont pas l'impression d'avoir été pas du tout préparés. Et donc, voilà, leurs attentes sont beaucoup liées à ça.
Et du coup, ce qu'on proposait pour respecter ces attentes-là et en même temps pouvoir avoir des outils qui soient adaptés aux jeunes, c'est de systématiquement co-construire les solutions avec les jeunes, donc de pouvoir encourager les projets, les initiatives qui viennent des jeunes pour construire les outils pour prendre soin de sa santé. Le dernier outil qu'on va vous présenter,
c'est le… c'est à titre purement informatif et indicatif, c'est un outil qui est… très complexe, qui fait l'objet d'un certain nombre de débats, mais on a pensé que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant d'évoquer. C'est le value-based healthcare. Alors, pour simplifier, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, très, très rapidement, l'idée, c'est que c'est un système de financement, c'est un mode de financement du système de santé, n'est plus une tarification à l'acte, c'est un système complètement différent, qui, comme l'indique, est basé sur la valeur. La valeur, alors, comment calculer la valeur et comment définir la valeur, c'est toute la problématique du système. Il y a beaucoup d'indicateurs, il y a besoin de beaucoup de données pour que le système fonctionne. C'est ça qui le rend très complexe. Mais pour faire très simple, l'idée, c'est que de réorganiser tout le système de soins en ce qu'on appelle des Accountable Care Organizations, des ACO, qui sont des groupements d'organisations de santé, mais qui comprennent à la fois l'hôpital, le soin de ville, les kinés, les infirmières, tout un tas de systèmes, les psychologues, tout un tas d'accompagnants dans des grandes organisations qui sont jugées responsables, accountable, parce qu'elles sont responsables d'un bassin de population. Et donc l'idée, c'est que ce groupement de soins va devoir prendre en charge tout un bassin de population. L'idée, c'est de favoriser le passage de relais quand les soins ne sont pas pertinents ou quand il vaut mieux le passer à quelqu'un d'autre, puisqu'aujourd'hui, le système de financement le favorise peu, mais aussi de pousser à prendre en charge tout le monde au sein du bassin de population. Voilà, l'idée, c'est globalement ça. Ça favorise la prévention et aussi, comme il y a une prise en charge qui est basée sur la valeur, la prévention renferme beaucoup de valeur dedans, puisque plus on prend en charge tôt, plus moins on a besoin derrière de payer pour le curatif. Et donc, c'est pour ça qu'on a jugé que c'était pertinent de l'évoquer.
Pour vous présenter en synthèse, les propositions qu'on avait, c'est celle d'ancrer la santé à l'école, de créer des health spaces, qui sont des dispositifs d'accès à la promotion de la santé et de soutien des jeunes, d'organiser des événements grand public d'ampleur autour des thématiques de santé, de développer chez les jeunes la littératie en santé, d'accompagner la parentalité, de favoriser les sources d'informations fiables et attractives en santé, de mieux réguler l'usage des réseaux sociaux afin de protéger la santé mentale des jeunes, de créer un pass bien-être pour tous les jeunes français, d'encourager l'innovation ouverte et d'acculturer les jeunes à l'entrepreneuriat à impact et de valoriser l'engagement citoyen des jeunes. Et puis simplement, plus concrètement, qu'est-ce que ça peut changer de façon générale tous les outils qu'on vous a listés quand on est médecin généraliste, notamment quand on est médecin? Ça peut changer premièrement la façon d'interroger les jeunes. En fait, ça va être d'accompagner le jeune pour l'aider à identifier en quoi la santé pourrait leur permettre d'atteindre leurs objectifs de vie. D'être toujours à l'écoute de leurs enjeux, essayer de comprendre voilà, quel est l'enjeu derrière le comportement pour agir plutôt en diminuant les conséquences négatives, mais toujours en préservant cet enjeu. Deuxièmement, la façon de délivrer l'information en santé, délivrer une information positive, souligner les conséquences positives à court terme, gagner de l'énergie, pouvoir améliorer sa concentration pour atteindre son projet à long terme. Et puis toujours partager le point de vue ou les outils utilisés par d'autres jeunes. Dire par exemple, voilà, tel jeune m'a proposé telle solution, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous correspondrait? Et multiplier toujours les modèles et les exemples de bonne santé qu'on pourrait donner. La dernière chose, c'est de co-construire toute intervention et de toujours demander du feedback. Et puis enfin, d'identifier et d'échanger avec les personnes qui partagent le quotidien des jeunes. Voilà, on vous remercie de votre attention.
Il n'y a pas de questions ce soir. Je vais dire merci à Jean-François, merci à Caroline, merci à Xavier pour des interventions claires, instructives, enrichissantes sur une prévention déjà en place, celle de Jean-François, sur une prévention que vous étudiez et que vous souhaitez proposer aux jeunes en allant vers eux. Je vais finir par une citation pour embêter un peu Guillaume qui ne les aime pas. Le traitement sans prévention est tout simplement insoutenable. Bill Gates. Merci beaucoup.